7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 9h moins le quart. Merci de nous écouter et d'être sur Radio Courtoisie. Dans 10 minutes, il y aura l'analyse de Xavier Aymant sur ce problème absolument crucial dans la vie politique française du prix du pass Navigo. Mais tout de suite, Alexandre de Galzin.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Hop, Alexandre Derry. Sous les loups, il ici, pissaria cartut, tabaker tuti tuagut, écu mitsumik, écu gafemi.
Alors, vous n'avez pas très bien prononcé, mais Richard, va vraiment falloir arrêter. Là, vraiment, plus personne ne pense au Groenland à part vous. Enfin, on est vraiment passé à autre chose. Personne, là.
Je lutterai.
Non, mais je sais pas ce qui vous prend à vous obstiner là-dessus, mais non, vraiment, il faut que vous vous rendiez compte que chaque mot groenlandais, c'est un auditeur de moins.
Alors, je précise quand même aux auditeurs que c'est vous qui écrivez mes répliques et que je suis bien gentil de jouer le jeu à me casser les dents sur vos prononciations. Alors, vous les gardez pour vous, vos reproches.
Bon, Richard, je sens que vous êtes un peu tendu. Alors, on va pas perdre de temps. L'homme est un animal politique, disait Aristote. Alors aujourd'hui, exclusivement pour vous, chers auditeurs, j'ai réalisé un grand quiz des animaux politiques. Je vais faire écouter un animal, vous me dites à quelle politique il correspond. Vous pouvez bien entendu jouer de chez vous, c'est un jeu participatif. Voilà, préparez-vous, ça commence, c'est parti, à vous la régie, animal politique numéro 1.
Alors, ça ressemble à un teckel enroué.
Ouais, alors qui est cet animal politique, Richard?
Écoutez, je ne sais pas. Voilà.
Bah écoutez, bien vu pour le côté teckel, mais il s'agissait en fait d'Antoine Léaumont. Mais si Antoine Léaumont, le député LFI qui rêve d'être Robespierre, mais qui n'est en fait que le videur de peau de chambre de Jean-Luc Mélenchon. Alors pour citer Jacques Brel, c'est à peine s'il est l'ombre de son chien, mais plus il rapporte le bâton, plus il a droit au sucre. Alors petite anecdote sur sa vie. Quand même, sur Antoine Léaumont et Jean-Luc Mélenchon, ils ont remporté ensemble le concours de dressage Daisy sur Eure en 2017 dans la catégorie toilettage. Voilà, alors plus royaliste que le roi Léaumont, joli paradoxe pour un révolutionnaire d'ailleurs, il n'a pas peur du ridicule, au contraire, il adore ça. Bon allez, deuxième essai, chers auditeurs, chers Richard, je suis sûr que vous pouvez faire mieux ce coup-ci.
Alors, Mathilde Panot ou une vache?
Eh oui, effectivement, c'était une vache, donc Mathilde Panot, bien joué. Bien qu'elle vienne d'Indre-et-Loire, effectivement, elle a quelque chose de la Normande ou de la Limousine. Alors, elle aussi, c'est un animal politique de compétition, vu que son meuglement porte à 2 km. Et petite anecdote sur elle aussi, eh ben, sachez qu'elle a remporté le concours de l'agriculture 2018. Voilà, peut-être tout le monde ne le savait pas. Alors, troisième candidat, on écoute.
Alors, là, ça se corse. On a l'impression d'un oiseau dans des buissons.
Eh bah, pas tellement, Richard, parce que il s'agit de Gabriel Attal. Oui, c'est le bruit du castor qui fait barrage à la haine avec ses deux incisives, un peu de guingois, là, vous voyez. Alors, d'ailleurs, chers auditeurs, je précise que j'adore le mot guingois, donc je lance officiellement une pétition pour le réhabiliter. Rendez-vous dimanche devant l'Elysée. Soyez nombreux, vêtus de façon baroque pour exprimer votre amour du guingois. Mais bref. Atalette, la petite Gabrielle, celle qui vous explique que le Front Républicain va de l'aile gauche de Renaissance à l'aile droite du Modem. En fait, avec lui, vous avez le droit de jouer, de voter pour Gabriel Attal, ou alors, vraiment à la limite, vous avez le droit de voter pour Gabriel Attal. Mais en fait, c'est ça où vous faites le jeu des extrêmes. Et le jeu des extrêmes, c'est comme l'abus d'alcool la veille d'une matinale. Ça détend sur le moment, mais il faut assumer derrière. Bon, allez, on poursuit, plus simple.
Ah, ça je reconnais, c'est Xavier Bertrand.
Eh, incroyable, on vous la fait pas à vous. Bon, alors, on va pas s'étaler là-dessus, ça pourrait presque devenir vulgaire. Donc on va enchaîner, Arnaud.
Ça ressemble nettement à un poulpe centriste en train de progresser vers sa proie.
Et ben vous êtes pas loin, c'était presque ça, c'était le calamar Sarkozy, celui qui se tient à l'envers, vous savez, en imitant l'éponge d'Homère pour mieux tromper les électeurs de droite. À parler il y a deux semaines, c'était pas si compliqué. Donc voilà, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce jeu et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Si on ne fait pas censurer de charmants animaux comme le cochon ou le serpent, attention, il y aura des pièges.
Merci beaucoup Alexandre pour cette nouvelle séquence désastreuse qui restera à n'en pas douter dans les annales. À propos d'ailleurs, quelle nouvelle de Jack Lang ?
Vous soyez de plus en plus de transition Richard là décidément. Bon, alors quelle nouvelle de Jack Lang ? Bon, alors moi je vous avoue que je suis un peu gêné. Donc le type est cité dans les fichiers Epstein et tout le monde se réveille alors que ça fait à peu près un quart de siècle que le prophète Roger Olyndre l'a confondu dans l'affaire du Corral, qu'il a fait des allers-retours au Maroc et qu'il a signé une tribune pour expliquer que la pédophilie, faut pas juger avant d'avoir goûté et que tant mieux si on n'aime pas ça, ça en fera plus pour les autres. Ouais, sérieux, on a mis du temps à se réveiller là, alors bon, il a démissionné de l'Institut du Monde Arabe et il a commencé à établir une ligne de défense assez peu subtile. En fait, il a tout nié. Tout, mais absolument tout, quoi. Et oui, je connaissais vaguement Jeffrey Epstein. C'est quoi son famille, déjà? Oui, bon, j'ai croisé dans la rue une fois il y a 10 ans, on s'est dit bonjour, on promenait nos enfants, enfin, rien de particulier, franchement, enfin... Alors que tu sais qu'en face, Epstein, il l'appelle « Ah, my dear friend, Jack Lang », il raconte qu'il a privatisé le musée d'Orsay pour lui, voilà. Il y a des mails où il demande qui récupère la bagnole de qui organise le dîner de qui garde les enfants de qui, enfin... En plus, Epstein aurait aidé Jack Lang à ouvrir un compte offshore pour y mettre 1,4 million d'euros, et il aurait légué 5 millions de dollars, quand même, jolie somme, à Caroline Lang, la fille de Jack Lang. Alors elle a tout nié aussi de son côté, c'est ce qu'on appelle être mauvaise langue. Allez, c'est décidé, je me retiens depuis beaucoup trop longtemps, donc je vais absolument toutes les faire. Alors, quand on a demandé à Jack Lang s'il était ami avec Epstein, il a été un peu... langue de bois. Voilà, merci. Donc il aurait mieux fait de ne pas renvoyer sa fille Caroline sur l'île d'Epstein ou de l'autre pédophile. Il aurait dû tenir sa langue. Et pour finir, je dirais que de temps en temps, on aimerait bien voir le Lang bien pendu. Voilà, fini.
Eh bien, merci Alexandre. Voilà, séquence inoubliable, vous êtes vraiment irresponsable. Je ne sais pas comment on peut avoir une si mauvaise imagination dirigée d'une si mauvaise façon. C'est assez fascinant d'ailleurs cette créativité que vous avez déployée quand il s'agit de dire absolument n'importe quoi. Alors, que doit-on en faire de Jack Lang ?
Alors ça, c'est la grande question. Donc depuis qu'il a démissionné, il est quand même parti quelques jours au Maroc pour se vider le cerveau, et peut-être autre chose d'ailleurs. Mais là, il est rentré à Paris et c'est le drame. Donc il erre comme un spectre de porte cochère en porte cochère, essaie de se faire bien voir parce que tout le monde l'insulte à chaque fois qu'il le voit. Puis je suis désolé, mais il effraie absolument tout le monde, quoi. Pardon, mais le gars, je crois qu'on vit un effet Mandela et on croit qu'il est toujours vivant, mais il a dû mourir il y a 10 ans et se faire ressusciter par Lucifer en personne. Non mais, sérieux, vous avez vu sa tronche ? Il a 86 ans, il en fait 128. À côté, Jeanne Calment a l'air de sortir du lycée. Ah, remarquez, vaut mieux pas dire ça, ça pourrait lui donner des idées. Enfin, bref. Donc le type ressemble tellement à une momie que j'aurais une proposition audacieuse, donc le faire rentrer au département égyptologie du Louvre dans un sarcophage juste à côté de Toutmosis II, là. On l'enveloppe de bandelettes comme ça, on le laisse pioncer tranquillement, je vous garantis qu'absolument personne n'y verra que du feu. Ou alors, si vous voulez vraiment être certain qu'il fera plus jamais de loi débile sur la culture, vous le mettez dans le désert, vous fabriquez une pyramide par-dessus avec des pièges, là. Enfin, dans tous les cas, il y a un coup à jouer. Ça, c'est du patrimoine.
Alexandre, malgré les apparences, Jack Lang est toujours vivant.
Oui.
Donc, qu'est-ce que vous projetez de faire, quitte vraiment à le recaser quelque part ?
Alors, j'avais deux idées principales. La première, elle est toute simple, c'est qu'il paraît qu'il y a un créneau qui vient de se libérer sur CNews tout récemment. Donc, je crois que c'est la tranche 10h30 midi, donc c'est tout frais, qu'il n'hésite pas. Autre option, vu que Jack Lang est bien rodé quand même aux institutions françaises, qu'il a une certaine expérience, je me dis qu'on pourrait peut-être le rendre utile. Oui, il y a une frange de l'État qui se retrouve dans une situation assez lamentable. De nouveaux scandales qui éclatent chaque semaine, les éducateurs sont recrutés, mal formés ou laissés à eux-mêmes sans moyens, on sait plus comment réformer ça, faut de nouvelles idées ou un nouveau visage à mon sens. C'est pour ça que je propose solennellement aujourd'hui, chers auditeurs, la nomination de Jack Lang à la tête de l'aide sociale à l'enfance.
C'est l'enfer. Vous ne pouviez pas faire pire à ce stade. Bon, autrement, Alexandre, demain, c'est la Saint-Valentin. Vous avez quelques blagues méchantes à ce sujet à balancer, j'imagine ?
Eh ben, en fait, Richard, pour rien vous cacher, j'y ai pensé. Pour le coup, j'ai pensé à faire quelque chose de très amer et vilain. Mais vous savez, je vais parler pour le coup très sincèrement. Je pense que de temps à autre, il faut savoir un peu se calmer sur la méchanceté et essayer d'offrir un peu de poésie.
Mais c'est bien ça.
Donc, je l'ai fait sur un ton un peu ironique par le passé. Mais alors que demain, c'est la fête de l'amour, bah, j'aimerais bien changer un peu de ton et proposer à nos auditeurs masculins un petit coup de pouce pour demain. Donc, c'est tout à fait sérieux. C'est toujours difficile de trouver un cadeau, de trouver les mots. Enfin, on connaît tous cette affreuse charge mentale, hein, qui est le fait de choisir le resto du 14 au soir, le matin même, voire d'y réserver une table pendant que votre femme est en train de passer faire la cuisine et de nettoyer les vitres. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous aider quand même, je vais vous laisser une lettre d'amour clé en main. Alors si votre femme n'écoute pas la radio avec vous ce matin, je vous laisse sans souci voler cette lettre, vous allez voir que de toute façon elle n'est pas tout à fait de moi. Donc c'est mon cadeau de la Saint-Valentin à vous, chers auditeurs. Mamie, ma douce chérie, vous êtes entrée par hasard dans une vie dont je n'étais pas fier, et de ce jour-là quelque chose a commencé de changer. J'ai mieux respiré, j'ai détesté moins de choses, j'ai admiré librement ce qui méritait de l'être. Camus.
Mais ça pourrait être vous, Alexandre.
Mais non. Quand vous m'êtes apparu, ce fut avec cette grâce qui environne tous les êtres dont la fortune vient du cœur. J'aime d'avance ceux qui souffrent. Ainsi, pour moi, votre mélancolie fut un charme, vos malheurs, un attrait. Balzac. Voyez-vous, il y a certains regards de femmes que l'homme aimant n'échangerait pas avec toute la possession du corps de celle-ci. Celui qui n'a pas vu s'allumer dans un œil limpide l'éclat de la première tendresse ne connaît pas la plus haute des joies humaines. D'Annunzio. Il y a des femmes qui donnent, qui inspirent l'envie de les vaincre et de jouir d'elles, mais celle-ci donne le désir de mourir lentement sous son regard. Maupassant. Ah Dieu, j'ai aimé la liberté jadis, avant de vous aimer plus qu'elle. Maupassant. Mais la liberté, pourquoi la liberté? Le bonheur pour moi consiste à aimer, à vivre de vos pensées, de vos désirs, à vous sans aucune liberté. Voilà le bonheur.
Mais vous ne parlez jamais comme ça, Alexandre.
Un jour peut-être. Alors, tendre femme, croyez que de vers vous, mon cœur ne fait qu'un cri, que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous liriez cette lettre avec les lèvres. Rostand. Je voudrais que la chaleur de ma main laisse là mon âme comme j'y mets un dernier baiser. Balzac. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des yeux où il faisait si bon vivre que je n'ai jamais su où aller depuis. Gary. Mon cœur s'embrase tant qu'il consume la distance que j'avais mise dans cette lettre. Je vais vous tutoyer, mon ange, mais l'absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes comme le vent éteint les bougies et allume le feu. Napoléon. Ah, je n'ai pas passé un jour sans t'aimer, je n'ai pas pris une nuit sans te serrer dans mes bras, je n'ai pas pris une tasse de thé sans maudire la gloire et l'ambition qui me tiennent éloigné de l'âme de ma vie. Encore Napoléon. Et pourtant, je porte mon amour pour toi comme un joyau infiniment précieux et fragile à travers l'interminable bousculade des humains. Rebattez. Et puis, chers auditeurs amoureux, puisqu'il y a des larmes d'amour qui dureront plus longtemps que les étoiles du ciel, puisque l'orgueil de l'amant avait bien inspiré le poète, concluez ainsi votre lettre. Je m'en vais faire un roman, j'ai bien envie d'écrire notre histoire. Il me semble que cela me guérirait et m'élèverait le cœur. J'espère que tout cela vous sera utile, chers auditeurs masculins, et joyeuse Saint-Valentin à vous.
Merci Alexandre, et nous rejoignons Xavier Aimant qui est tout ému.
Ligne droite, l'analyse.
Bonjour Xavier Aimant.
Bonjour à tous. Voilà. Oui, je vais essayer de me reprendre.
Alors, on a discuté du choix de votre chronique et on s'est dit qu'effectivement, les journalistes français dans leur ensemble avaient une vision juste de ce que doit être un vrai gouvernant, un véritable maire de Paris, un véritable président de la République. Fondamentalement, il s'agit de connaître le prix du ticket de métro.
Exactement. Mon cher Richard, vous avez tout dit. Vous qui suivez et commentez l'actualité quotidiennement, vous l'aviez bien évidemment noté, il y a eu cette semaine deux affaires majeures, deux scandales médiatiques retentissants. Alors d'un côté, les nouvelles révélations de l'affaire Epstein, et de l'autre, l'erreur de Sarah Knafo concernant le prix du pass Navigo annuel. Attardons-nous quelque peu, si vous voulez bien, sur ce second drame, tant il a suscité d'émoi et de commentaires. En effet, dimanche 8 février, sur BFM TV, Sarah Knafo, candidate reconquête à la mairie de Paris, a commis une terrible bévue. À la question « Quel est le prix du pass Navigo annuel ?», elle a répondu « 52 euros ».
Ouh là,
ah là là. À ces mots, les réseaux sociaux, comme vous, ont explosé, et les médias sont entrés en éruption. La coupable a beau avoir expliqué qu'elle avait commis un lapsus, ayant compris que la question concernait le prix après remboursement par l'employeur, soit 50 euros mensuels pour les salariés, c'était trop tard, le mal était fait. Sarah Knafo ne connaît ni Paris, ni la vie des Parisiens, elle est donc disqualifiée pour la course à la mairie. Circuler, il n'y a rien à voir. Depuis lors, les éditorialistes et autres chroniqueurs s'en donnent à cœur joie, se réjouissant de voir la candidate populiste prise à son propre jeu. Il est vrai qu'ils adorent ça, les journalistes, prendre à défaut les hommes politiques sur le prix des biens et services du quotidien. Des prix que, bien sûr, pour leur part, ils ont bien révisés juste avant l'émission. Mais quel est vraiment le sens et la portée de ce genre de questions? Que cherchent-ils à démontrer par là? Que nos élus et hommes politiques n'ont pas exactement le même mode de vie que les Français moyens? Qu'ils ne font pas leur course à Lidl et que certains, même, ne prennent peut-être pas les transports en commun tous les jours? Quel formidable scoop! Quelle extraordinaire révélation! Une telle vertueuse dénonciation de la prétendue déconnexion du mode de vie des politiciens vis-à-vis du peuple est d'autant plus savoureuse lorsqu'elle provient de journalistes grassement payés, notamment ceux du service public, où, rappelons-le, il y a encore peu, les frais de taxi s'élevaient jusqu'à plus de 10 000 euros par jour. En réalité, ce que révèle cette affaire, qui n'en est évidemment pas une, c'est surtout la capacité des médias à sombrer dans la plus parfaite démagogie dès lors qu'il s'agit de discréditer une personnalité politique qui leur déplaît. En ce cas, tous les moyens sont bons, et on n'hésite donc pas à instrumentaliser une insignifiance et donner un écho surdimensionné à une simple bourde, tandis que tant d'informations plus graves et plus importantes sont passées totalement sous silence. Bon, il est vrai que Sarah Knafo paye sans doute là ses attaques régulières contre le service public et son souhait annoncé de privatiser celui de l'audiovisuel. Ce qui est d'ailleurs une très mauvaise idée par ailleurs, mais ceci est un autre débat. Revenons donc à notre passe Navigo, si vous le voulez bien. Puisque les journalistes voulaient apparemment à toute force parler de chiffres liés au transport en commun, il y en avait tout de même de bien plus intéressants. Celui des violences sexuelles, par exemple, qui ont explosé de 86% en 10 ans, 7 femmes sur 10, en Ile-de-France déclarant avoir déjà subi une agression ou une violence dans le métro ou le RER. Ils auraient pu aussi parler de l'augmentation des incidents techniques, plus 226% par rapport à 2024, selon Le Parisien, ou encore, par exemple, de l'accroissement des retards. Mais non, Sarah Knafo n'étant pas responsable de ces chiffres, cela n'a aucun intérêt. On préfère persifler et ricaner, et ainsi faire ce que les médias, les grands médias, en tout cas les gros médias, savent faire de mieux, transformer un détail anecdotique en psychodrame national pour éviter les vrais débats. On préfère rire d'une candidate qui confond annuel et mensuel plutôt que d'exiger des comptes sur la sécurité dans les transports, sur la violence qui explose, sur les budgets qui gonflent sans cesse sans que le service suive. C'est plus facile, c'est plus vendeur et surtout cela permet de ne pas parler des problèmes structurels qui pourrissent la vie de millions de Parisiens et de Franciliens. Car ce que l'on demande réellement à un responsable politique, ce n'est pas de mener la même vie quotidienne que ses électeurs et concitoyens, mais d'œuvrer efficacement à l'amélioration des conditions de l'existence de ceux-ci. Sinon, autant remplacer les échéances électorales par l'émission Le Juste Prix, ce programme de télévision où les candidats doivent deviner au plus près le prix d'un baril de lessive, d'une boîte de cassoulet ou d'un tube de dentifrice. Pas sûr néanmoins que la démocratie en sortirait grandie.
Tout à fait. Merci beaucoup pour cette chronique où il y a cette obsession effectivement des journalistes pour prouver que le candidat n'est pas le vrai candidat des Français car il ne se comporte pas exactement comme un Français ordinaire. Alors qu'eux-mêmes, bien sûr, sont des monstres d'ordinaire, sont
oui,
des gens...
comme chacun sait, bien sûr.
qui n'habitent pas Paris, qui habitent tous à Issy-sur-Eure, qui ne reçoivent pas un salaire inconséquent par rapport au nombre d'heures effectuées, qui ne bénéficient pas d'abattements fiscaux réservés à la caste des journalistes. Voilà. Et donc, il est bien normal que ce soit eux qui soient les juges des politiques. Mutatis mutandis, ça me fait penser aussi à ce genre de débat débile où on demande à un président de la République qui est censé, en fait, assumer le rôle du pouvoir, d'être le spécialiste des statistiques foireuses. Alors, combien y a-t-il exactement d'ogives nucléaires en France ? Comme si le fait qu'il soit un jour appelé à les balancer exigeait qu'ils connaissent l'état de l'arsenal.
Oui, c'est tout à fait significatif, on le voit régulièrement. Les débats sont devenus, plus que des débats politiques, des débats techniques. C'est-à-dire on demande aux candidats d'être des techniciens de tous les domaines. Or, c'est évidemment à la fois impossible et totalement inutile. Comme vous l'avez dit, un homme politique, surtout quand on arrive à un certain niveau, c'est-à-dire, briguer la présidence de la République, par exemple, on ne lui demande pas d'être un technicien de tous les domaines possibles et imaginables, mais d'incarner une volonté politique et des choix politiques forts. Et en effet, c'est totalement ridicule de demander à un candidat de, par exemple, connaître toutes les règles liées à l'agriculture, à la PAC, à la politique agricole commune, mais en même temps savoir aussi quelles sont les nouvelles règles sur l'énergie. C'est impossible et c'est inutile. Et c'est d'ailleurs un piège dans lequel tombent souvent les candidats. À vouloir à tout prix répondre, à avoir une armée de communicants et de spécialistes qui font des notes et des petites feuilles surtout, et on finit par avoir des débats qui sont un peu grotesques, où en effet chacun s'envoie à la figure l'inculture de l'autre sur tel ou tel point. C'est d'ailleurs peut-être un peu ce qui est arrivé à Marine Le Pen lors de ses débats avec Emmanuel Macron. Plutôt que prendre de la hauteur et parler des problèmes généraux. Elle a voulu rentrer, montrer qu'elle était techniquement compétente. Et bon, elle s'est un peu perdue dans cette voie-là. Son père, par contre, avait très bien compris ça. Et quand on essayait de l'amener sur un domaine technique qu'il ne maîtrisait pas forcément, il répondait ce que vous avez dit très justement, c'est-à-dire qu'il n'était pas là, c'était pas un directeur de cabinet. Il ne se présentait pas pour être préfet ou pour gérer les affaires courantes, mais pour donner une impulsion politique, imposer des choix politiques, et après, évidemment, il serait entouré de techniciens et de spécialistes qui mettraient en application sa politique.
Alors que Macron, au contraire, a fait toute sa réputation sur le fait qu'il était capable d'avaler des dossiers et de les recracher. C'est absolument fascinant.
Oui, avec le brillant résultat qu'on, mais voilà, qu'on peut
donc,
observer.
Et donc, on continue à expliquer qu'il est compétent alors que la France est surendettée, la France est un taudis à ciel ouvert, la France est un cloaque, la France est parsemée, mitée d'enclaves où les lois de la République ne s'appliquent plus. Même les trucs foireux qu'il essaie de faire à Marseille, puisque je rappelle que le Grand Marseille fait partie des onglets qui sont apparus à l'Élysée après la célébration de Notre-Dame et du débarquement et des Jeux Olympiques, on se rend compte que les appels d'offres de la mairie de Marseille sont foireux et que les chantiers prennent du retard. Donc, tout ce que lance Macron est une faillite absolue. Je ne parle même pas de la réindustrialisation. Vous savez qu'on est revenu à 2013 pour ce qui est du nombre de mètres carrés d'usines construites en France.
Je ne savais pas, mais voilà. je ne suis malheureusement pas très étonné.
Le président Macron nous rebat les oreilles depuis 2017, on est en 2026 sur la réindustrialisation de la France. On construit aujourd'hui aussi peu d'usines qu'on en construisait avant qu'il ne soit élu et même avant qu'il ne devienne ministre de François Hollande.
Mais c'est un très bon exemple.
Est en train de nous expliquer que parce qu'il est capable de tenir le crachoir 3 heures durant en nous abreuvant de statistiques qu'il n'a pas compris lui-même, il est compétent.
Mais c'est la problématique de la politique médiatique. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont se cantonner au discours et on pense que le discours va être incarné par des faits. Mais par exemple, le chiffre que vous donnez, je pense que personne ne le connaît. Alors que les grands discours de Macron, pas mal de gens les ont entendus et certains continuent à y croire en se disant c'est pas possible de faire de telles déclarations sans que ce soit suivi d'un minimum d'effet. Or, c'est très possible puisque c'est même la base de cette politique qui n'est qu'une politique d'effet d'annonce, en effet, jamais ou rarement, en tout cas, suivi d'effets concrets. C'est la grande force de Macron, c'est d'avoir réussi à imposer cette idée qu'il était techniquement supérieur à ses adversaires politiques.
Après, j'ai pas l'impression que ça date de Macron non plus, cette affaire. C'est-à-dire que, globalement, alors, c'est pas forcément ma génération, enfin, je n'étais pas en âge de voter dans ce temps-là, mais déjà, quand on regarde les débats de la fin des années 90, du début des années 2000, ce sont des débats de techniciens. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des débats sur des points de dette, ce sont des débats sur des points de chômage, ce sont des débats sur des débats purement chiffrés dans le fond, et c'est vrai que d'une certaine façon c'est Éric Zemmour qui avait pour le coup pendant sa campagne essayé en 2022 de dire oui je m'extrais des chiffres, je suis là non pas pour être dans les calculs, non pas être dans les petites coccidilles, etc. Et je vais essayer plutôt d'avoir de grands chantiers quelque part. Mais dans le fond, je pense qu'il y a un autre élément aussi, c'est que la question de la dette est tellement importante aujourd'hui et fait peur à tellement de gens, la question du budget, la question de l'équilibre des comptes publics en général, et même d'ailleurs on voit que les débats à l'Assemblée se tournent de plus en plus justement vers le gaspillage d'argent public, que forcément ça devient un sujet aussi majeur que d'être capable de corriger tous ces chiffres et de faire en sorte de remettre les comptes à l'équilibre dans le fond. Enfin, ça devient aussi un chantier.
Oui, alors moi je pense que les gens ont peur de la dette et des problèmes économiques parce qu'on leur fait peur avec ça. Je pense que personne ne comprend exactement ce qu'est la dette,
oui,
à qui on la doit, si on doit la payer, comment ça se passe, etc. Mais en fait, on en parle systématiquement, donc les gens ont peur, et donc en effet, ça efface les débats politiques de fond.
Oui, mais c'est une question de principe aussi, la dette. C'est-à-dire que dans le fond, je trouve sain que les gens soient plutôt favorables à l'idée d'avoir des comptes publics à l'équilibre.
Oui, non, mais bien sûr, dans l'idéal, il vaut mieux être à l'équilibre.
Gérer ça comme un bon père de famille, enfin, c'est le
oui, l'adage. Bien sûr, sur le principe, vous avez tout à fait raison. Maintenant, on sait très bien que cette dette, on va pas la rembourser. Bon, ça, c'est assez clair. Donc, il faut partir de ce présupposé-là et pas tout lier à ça. Sinon, on ne fera plus rien, en effet, à part essayer de trouver pour gratter, pour rembourser un milliard par-ci, un milliard par-là. Et ça va bloquer toute action volontariste de grande ampleur. Non, je pense qu'il ne faut pas être terrorisé, sinon ça va devenir complètement incapacitant.
Mais on voit d'ailleurs ce qui se passe en Allemagne. Alors, en France, étant donné que les politiques ont réussi à mettre l'État quasiment en faillite, maintenant tout tourne autour de la dette, et donc en fait tout tourne autour de l'impôt, de la manière de flécher votre épargne, de la manière de pomper votre épargne, de la manière de revenir sur toutes les promesses de campagne, de la manière de revenir sur toutes les fiscalités qui avaient été améliorées, parce que voilà, la dette. À côté de ça, l'Allemagne, dont l'économie est en train de plonger, dont la démographie est en berne, décide tranquillou de dépenser des centaines de milliards pour reconstituer une armée. Et en fait, il n'y a pas de problème. Et même, reprenons la dette française. La France a émis une obligation d'État il n'y a pas longtemps pour quelques dizaines de milliards. Il y avait tellement de souscripteurs que la France aurait pu vendre pour 135 milliards d'euros de dette. Autrement dit, les marchés financiers s'en foutent de la dette française. Ils font parfaitement confiance à l'État français pour être capable de rançonner les Français. Donc autrement dit, ce qu'on nous présente comme étant une pure catastrophe, et qui sans doute l'est d'une certaine manière, les marchés financiers ne l'estiment pas du tout de la même manière.
Voilà. Donc
on est parfaitement capable de faire une vraie politique sans s'exciter sur ce problème de la dette, puisque en fait, et vous avez parfaitement raison, Xavier Aymant, c'est un paravent pour expliquer qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas mettre des moyens pour développer les soins palliatifs parce que la dette, donc on va tuer les vieux. On ne peut pas mettre des moyens pour faire en sorte que les Français soient en sécurité parce que la dette, donc pas de policiers. En revanche, brusquement, on est capable de coller une PPE3 avec 300 milliards d'investissements dans l'éolien et le solaire, alors qu'avec le parc nucléaire qu'on a déjà, ça suffirait. Donc autrement dit, ceux qui mettent en permanence la dette en avant sont ceux qui sont capables de faire des investissements désastreux. Je rappelle sur cette question de la programmation pluriannuelle énergétique française que on est en train de s'exciter pour coller un maximum de capacité de production d'énergie en plus, alors que toutes les décisions sont prises en fonction de projections de consommation d'énergie qui sont fausses. Puisque, par exemple, il n'y a pas d'électrification du parc automobile. Et que, par ailleurs, on va plutôt vers une moins d'électricité dépensée, ne serait-ce que parce qu'il y a moins de gens, etc. Autrement dit, toutes les projections qui nous expliquaient « il faut absolument qu'on produise plus d'énergie en plus » sont des projections qui étaient fausses. On est en train de les réviser à la baisse, mais on est en train de continuer à augmenter les investissements par centaines de milliards d'euros dans des énergies dont, en fait, nous n'aurons pas besoin, sans parler des problèmes spécifiques du parc nucléaire français et donc de la manière dont l'intermittence vient gêner la chose. La dette est le cache-sexe des politiques.
Oui, c'est même un épouvantail et qui sert surtout à imposer des politiques d'austérité.
C'est amusant. Moi, je dis que ça cache, vous dites que ça exhibe. Ça doit révéler quelque chose, Xavier.
Peut-être. Bon. Il faudrait interroger un psychiatre ou un psychanalyste, voilà. Plutôt.
Pour on le doit coup. Avoir des problèmes, mais pas les mêmes.
mais en effet, je pense que vraiment, c'est comme quand on nous expliquait si la dette dépassait 3% du PIB, oui. tout allait s'effondrer. Alors maintenant, évidemment, 3%. Tout allait s'effondrer, c'était vraiment le chaos qui nous attendait. Bon, ben, on voit bien que c'est.
On a explosé 4, on a explosé 5.
On voit bien que c'est faux. Je dis pas qu'il faut évidemment ne pas se préoccuper de ces chiffres, mais je crois qu'on terrorise les gens et on leur fait accepter n'importe quoi au nom de cette fameuse dette. Comme vous le disiez, par contre, quand il faut trouver des milliards soudainement pour l'Ukraine ou pour je ne sais pas quoi, on en trouve.
Oui, donc, mais d'autre côté, il y a cet élément qui est que c'est pas incompatible de parler d'équilibre des comptes publics et de mener de grandes politiques. C'est-à-dire que dans le fond, je pense que là, il y a une sorte de faux dilemme où l'argent est tellement mal dépensé et vous venez de le dire, Richard, que ce soit sur la question du renouvellement du parc éolien ou alors sur d'autres sujets. Enfin, on pense évidemment à toutes ces histoires de comités, toutes ces histoires de même l'argent qui est dépensé dans l'immigration, enfin tous ces sujets-là. Dans le fond, On voit que, même on pourrait parler aussi du sujet des retraites, mais c'est encore un autre débat, mais dans le fond, on voit quand même que il y a... c'est pas incompatible. Enfin, en fait, on peut très bien faire de très grosses économies à plein d'endroits et aussi mener de grands chantiers. Mais dans le fond, sans doute que c'est pas non plus admirable d'avoir 4, 5, 6, 10% de déficit des comptes publics. Et non, d'ailleurs, on est les premiers à dire que c'est, qu'il est absurde d'avoir 5% de déficit par an dans les comptes publics, tout de même.
Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il s'agit évidemment pas d'encourager l'État à dépenser n'importe quoi, n'importe comment. Ce que je dis, c'est qu'il faut évidemment faire des économies, ça tout le monde est à peu près d'accord, on voit très bien où on pourrait en faire, et de très importantes, mais moi je veux pas que cet argent, il serve uniquement à rembourser la dette et à payer les fonds de pension américains. Je veux qu'il soit réinvesti dans l'industrie, dans l'économie réelle, dans l'industrialisation, etc., etc. Parce que sinon, c'est un tonneau des Danaïdes et c'est une fuite en avant. Oui. Il faut réinvestir cet argent, il faut économiser, mais il faut le réinvestir et pas le rejeter uniquement dans l'économie spéculative qui nous tue depuis des dizaines d'années. Voilà, c'est ça. Mais en effet, il faut impérativement faire des économies. On voit bien que l'argent public est très mal dépensé. Il faut dépenser de l'argent public, mais il faut le dépenser utilement et efficacement.
Richard, non.
Non, c'est,
non,
c'est
vous voulez pas dépenser l'argent public efficacement. C'est ça que vous disiez. Vous préférez le gâcher. C'est
la dépense publique efficace. Je voudrais qu'on revienne d'ailleurs sur une des promesses de la candidate Marine Le Pen. Au moment de la candidature de 2022, où elle avait proposé justement de créer un fonds d'investissement, un fonds souverain national, et de le doter de 500 milliards. Ça, excellente idée. Alors, c'est dommage, ça a eu peu d'écho. Alors, évidemment, Emmanuel Macron a expliqué que c'était une très mauvaise idée parce que lui, en fait, passe sa vie à mettre l'argent par les fenêtres d'une manière absolument inconséquente dans plein de cas. Je rappelle que toutes ces crétineries de France 2030 consistent notamment à soutenir des start-up qui, pour la moitié d'entre elles, ont fait faillite ou à nous expliquer qu'il faut absolument que l'Union européenne investisse quelques centaines de millions ou que la France veut investir quelques centaines de millions, là où OpenAI investit chaque jour quelques centaines de millions. Donc on ne parle pas d'un investissement sur 5 ou 10 ans, c'est chaque jour que l'argent est jeté dans le feu de l'intelligence artificielle américaine. Et cette idée d'un fonds souverain de 500 milliards d'euros pour investir intelligemment et avoir un véritable rendement, un véritable retour sur investissement, voilà qui était une bonne manière de dépenser l'argent public en faisant en sorte justement que ce soit des règles intelligentes qu'ils gouvernent, comme les autres fonds souverains, d'autres grands pays.
Oui, de toute façon, il me semble qu'en effet, il faut tendre vers plus de souveraineté, même dans le domaine économique. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, étant donné le degré d'ouverture maintenant des marchés, etc. Mais moi, il me semble en effet qu'on a surinvesti peut-être dans certains domaines, notamment, les start-up. Alors, c'est bien d'être à la pointe de la technologie, etc., mais il y en a quand même, en effet, beaucoup qui font faillite, ou alors qui deviennent des bulles financières.
Oui. Ou alors tout d'un coup,
elles se vendent à l'étranger et 10 ans après ou 5 ans après, elles ne valent plus rien. Il faut revenir, en effet, peut-être à des choses, encore une fois, de l'économie plus concrète. Et vous parliez de cette fameuse réindustrialisation qu'on nous a quand même quasiment promis. Notamment au moment du Covid, en expliquant qu'il fallait réduire notre dépendance vis-à-vis des étrangers. J'aimerais bien que ça, ce soit effectif, en tout cas dans les domaines importants, la production de médicaments, l'énergie, la production de matières indispensables à l'existence courante. Il faut tendre, je dis pas vers une autonomie parfaite qu'on n'atteindra jamais, mais il faut retrouver une relative autonomie, et donc investir dans l'industrie classique également, et pas uniquement dans l'intelligence artificielle, même si c'est une révolution et qu'elle apportera sans doute beaucoup de choses. Mais on sait déjà qu'on n'a pas forcément les moyens, comme vous le disiez, par rapport aux États-Unis. Déjà, retrouvons une forme d'autonomie industrielle, déjà bien avancé, à mon avis.
Déjà, enfin, l'intelligence artificielle, dans le fond, c'est une part d'industrie d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est pas de l'industrie au sens physique du terme, mais c'est pas non plus un travail de services classiques de près ou de loin. Il y a une production quelque part qui, si elle est virtuelle, existe tout de même. Et puis après, il y a un autre élément qui est que... Alors moi, je veux bien entendre qu'on n'est pas forcément compétitif par rapport à OpenAI ou alors par rapport à Grok ou tous les autres concurrents. D'un autre côté, ce qu'on observe toujours, c'est que... À chaque fois qu'on abandonne, quand on abandonne des startups, qu'on va abandonner des concepts, qu'on va abandonner des projets, généralement, ce sont des choses qui nous sont reprises ailleurs, avec 2-3 ans de retard, finalement, aux États-Unis, en Chine ou je ne sais où. Et dans le fond, à chaque fois, on se dit, mais pourquoi on a abandonné ça? Et ensuite, la deuxième question, c'est, en fait, l'industrie concrète, oui, mais est-ce que on parle de compétitivité, est-ce qu'on est sûr que en termes d'industrie concrète, je pense par exemple, j'en sais rien, à ArcelorMittal ou à plein d'autres entreprises qui seraient de la vraie industrie lourde quelque part, est-ce qu'on a une vraie compétitivité par rapport aux Chinois, est-ce qu'on a une vraie compétitivité par rapport aux Américains, c'est pas du tout sûr non plus.
Eh ben, en fait, je trouve que l'exemple de l'acier est absolument remarquable. On en parlait cette semaine sur Radio Courtoisie, donc Emmanuel Macron s'est déplacé à Dunkerque pour expliquer qu'il allait remettre du blé dans ArcelorMittal. Alors, c'était une promesse qu'il avait faite, il en a parlé en 2026, il en avait parlé en 2025, il en avait parlé en fait en janvier 2024, donc voilà, et enfin, ça y est, on va mettre de l'argent dans... La décarbonation d'ArcelorMittal en faisant en sorte que ArcelorMittal soit grassement payé par l'État français pour mettre en place des fours électriques. Ok. Si l'industrie française bénéficiait du tarif électrique français sans que l'électricité française soit vendue selon les règles européennes, on serait hyper compétitif. Mais Macron veut rester dans le système européen. Donc, même une industrie énergivore comme l'acier, on pourrait être beaucoup plus compétitif. C'est un choix politique de faire en sorte que nous ne le sommes pas.
Et d'ailleurs, mais même là, pour le coup, je rejoins sur la question de l'IA et de Mistral notamment, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement énergivore que ces data centers et que tous ces, ces centres de données, chers auditeurs, ces centres de données gigantesques, ou alors même de manière générale, avoir tout ce qui est des serveurs, tout ce qui est de la production là-dessus, c'est un sujet qui est assez majeur. D'ailleurs, on voit qu'aux États-Unis, ils externalisent énormément ça en construisant des centres de données, donc au Chili, enfin dans plein d'autres pays.
Et bientôt au Groenland, je crois que ça fait partie des projets aussi. Parce comme ça, il y a moins besoin de les rafraîchir en les installant dans des pays froids.
Et ça coûtera moins en termes de chauffage au Groenlandais. Mais c'est vrai que dans le fond, même sur des sujets stratégiques et de pointe comme ça, on peut aussi avoir un avantage.
Mais on peut avoir des avantages à partir du moment où, en effet, on a la volonté politique de les avoir. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en effet, si on respecte toutes les règles actuelles, on a les mains liées. Il faut sortir des règles européennes, il faut sortir des règles du commerce international pour retrouver une souveraineté économique. Avec les règles actuelles, c'est même pas la peine de débattre, puisque c'est un système qui est fait pour être au service d'une oligarchie mondialisée et pas au service des peuples.
Et en plus, Macron, qui passe sa vie à faire en sorte que ce ne soit pas fait au service de la France, veut que ce soit fait au service de l'Union européenne. Mais les commissaires européens viennent de le dire. En fait, non, pas du tout. Aucun protectionnisme, même pas de protectionnisme européen. Il faut que nos entreprises soient ouvertes le plus largement possible à la concurrence la plus large pour faire en sorte qu'elles se soient des entreprises véritablement efficaces.
Donc, et puis on est...
ce type est en train de vendre la France à l'Europe, mais l'Europe est en train de lui dire « Mais ta France, de toute façon, on va la bouffer. Et si tu crois que tu vas réussir à acheter ta place à toi, Macron, au sein de l'eurocratie, eh bien non, rassure-toi, on va bouffer la France et en plus, on va expliquer que tes solutions de préférence européenne sont des solutions pourries. » Voilà. Et ça, ce sont les déclarations des derniers commissaires européens.
Et ce qui est fascinant aussi, c'est qu'au moment où justement Donald Trump se dit que c'est le bon moment pour lancer une guerre commerciale contre l'Europe, la Chine qui continue à grandir, la Russie qui s'arrange pas, etc., c'est typiquement le moment où on pourrait se dire on fait en sorte que les règles internes à l'Union européenne, typiquement celles qui pèsent sur l'électricité française, eh bien, on fait en sorte de les laisser un peu de côté parce que la France serait plus puissante et donc in extenso, en fait, sans doute rendrait l'Europe plus puissante face aux géants chinois ou américains. Et c'est à ce moment-là qu'on décide encore une fois eh bien de maintenir ces règles, voire d'en créer d'autres en interne pour essayer de faire en sorte que la concurrence au sein de l'Union européenne soit non faussée et que personne ne puisse exprimer le moindre avantage. Mais d'une certaine façon, on est en train de lisser par le bas l'intégralité du continent et de ce fait, de se rendre encore plus vulnérable au marché étranger.
Ah bah oui, mais ça c'est tout à fait logique, puisqu'il n'y a pas d'Europe politique. Mmh. Il n'y a pas d'Europe politique. Il y a une bande de marchands vendus aux États-Unis qui sont à la tête de l'Union européenne, qui n'a malheureusement rien à voir avec l'Europe que l'on pourrait souhaiter. Donc en effet, on casse les règles pour maximiser la concurrence, à la fois en interne et en externe. Donc en fait, on perd à tous les niveaux. Au lieu d'avoir une question de subsidiarité où chaque pays pourrait défendre un peu ses intérêts et mettre une partie de ses forces au service d'une entité européenne politique, eh ben là, on donne tout à l'Europe qui donne tout à la mondialisation. Donc on est perdant à tous les niveaux. C'est parce que cette Union européenne n'est pas une Europe politique, c'est une Europe de marchands totalement vendu à des intérêts qui ne sont pas les intérêts des peuples européens, encore une fois. C'est pour ça que moi, je reste européen, je reste persuadé qu'il faut inscrire le travail politique que l'on fait dans un cadre européen, mais pas dans le cadre de l'Union européenne. Il faut sortir de cette Union européenne et reconstruire une Europe digne de ce nom, basée sur autre chose que sur des préoccupations économiques mondialisées et au total service des marchés.
Eh ben, il nous reste 30 secondes pour dire à Xavier Aymon à quel point il a été intelligent.
Xavier Aymon, je dois dire que je vous ai trouvé particulièrement brillant, audacieux aussi dans vos prises de position et globalement que vous avez éclairé ma journée.
Eh ben, j'en suis très heureux.
Alors Xavier Aymon, je tiens à vous dire aussi que voilà, j'ai particulièrement apprécié cette analyse. C'est pas tous les jours.
C'est pas à chaque fois.
Non, c'était bien. Si vous pouviez bosser chacune de vos analyses comme celle que vous avez bossée aujourd'hui.
J'essaierai.
Je voulais vous complimenter, mais j'en profite quand même pour vous adresser quelques sévères critiques.
Je peux pas vous promettre.
Non, mais on va vous proposer bientôt le créneau 10h, 11h tous les matins, prolonger la matinale avec vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Xavier Aymon.
Merci à vous.
Et donc, tout de suite, Jérémy Combe qui va nous parler du silence, et après nous rejoindrons Tuc Dualdeni pour parler valeurs actuelles.
Aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jérémy Combe.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Alors, vous allez nous dire pourquoi le silence est parfois une marque de politesse.
Eh oui, en France, ce qui se voit trop, c'est souvent d'être élégant, Richard. Et si le vrai chic français résidait justement dans ce qui ne se montre pas. Quand on pense à l'élégance, on imagine souvent quelque chose de visible. Des vêtements, des bijoux, des signes extérieurs. Pourtant, en France, l'élégance a longtemps été silencieuse. Elle ne s'impose pas, elle se devine. Une tenue trop voyante, une attitude trop démonstrative, un comportement trop appuyé ont souvent été perçus comme des maladresses. Car l'élégance française ne cherche pas à attirer l'attention, elle cherche à s'inscrire dans la durée. Pour comprendre cette discrétion, il faut revenir à la société française des 17 et 18e siècles. À la cour, puis dans la bourgeoisie cultivée, l'ostentation devient rapidement suspecte. À partir du règne de Louis XIV, le luxe est omniprésent, mais strictement codifié. Ce n'est pas celui qui montre le plus qui est le plus respecté, c'est celui qui maîtrise le mieux les codes. Montrer trop ouvertement sa richesse, son savoir ou son importance, c'était risquer de paraître vulgaire ou pire, mal éduqué. L'élégance devient alors un art de la retenue. Dans les salons du XVIIIe, on jugeait très vite un invité, non pas sur ses vêtements seuls, mais sur sa capacité à ne pas se mettre en avant. Un homme trop brillant, trop bavard, trop visible, pouvait être considéré comme quelqu'un qui cherchait à compenser. On disait alors, avec une pointe d'ironie, « il veut trop se faire remarquer ». Et dans ces cercles, vouloir être trop vu, c'était déjà perdre en élégance. Pourquoi cette discrétion? Je sais que vous vous posez tous la question. Parce que l'élégance française repose sur une idée centrale, la justesse. Il faut être juste dans le ton, juste dans le geste, juste dans la présence. L'excès est perçu comme un déséquilibre, la sobriété comme une preuve de maîtrise. Être élégant, ce n'est pas en faire plus, c'est en faire exactement ce qu'il faut. Aujourd'hui encore, cette culture imprègne profondément la société française. On la retrouve dans la mode, où le détail prime sur les faits, dans la parole où l'on évite l'exagération, dans l'attitude où l'on préfère suggérer que montrer. Cette élégance discrète peut surprendre à l'international, mais elle est cohérente, elle protège l'individu du ridicule et le groupe de l'excès. En France, l'élégance n'est pas un spectacle, c'est une harmonie silencieuse. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à être juste, stable et durable. Le chic français ne crie jamais. Il se reconnaît à sa discrétion, à sa mesure et à cette élégance qui n'a pas besoin d'être vue pour être ressentie.
Cher Jérémy, on sent que ni les députés et les filles, ni la première dame ne rentrent dans votre définition.
Vous m'enlevez quelques mots de la bouche.
Merci Jérémy Combe.
À bientôt.
Ligne droite, la revue de presse.
Et cette revue de presse, c'est avec notre partenaire Valeurs Actuelles et donc avec Tuc Duhal-Denis, rédacteur en chef de... Non, pas rédacteur en chef, directeur de la rédaction.
Directeur de la rédaction, voilà. Rédacteur en chef. Bon, écoutez,
voilà. C'est vous le boss.
Ça veut plus ou moins dire la même chose. Voilà. Donc,
c'est vous le boss, c'est grâce à vous qu'on a cette couverture aujourd'hui sur la grenade Epstein, donc le Valeurs Actuelles qui est dans les kiosques depuis mercredi.
Bonjour Richard, bonjour à tous vos auditeurs. Effectivement, cette semaine, on a décidé de consacrer notre dossier de couverture à l'affaire Epstein, qui est une affaire qui secoue le monde entier et qu'on a titré la grenade Epstein parce que vos auditeurs le savent sûrement, mais ce milliardaire accusé de prostitution de mineurs, de viol et de bien d'autres mots, MAUX, est mort en prison il y a quelques années. Et c'est comme s'il avait dégoupillé au moment de sa mort cette bombe à fragmentation et à retardement, et qu'aujourd'hui, elle éclaboussait le monde entier et l'éclatait au visage d'un certain nombre de personnes. On a mis en surtitre manipulation, déviance, cynisme, car ce n'est pas simplement l'histoire d'un fait divers. Les lecteurs de Valeurs Actuelles et vos auditeurs qui seraient intéressés par la lecture de ce dossier ce week-end ne trouveront pas de détails sordide, ou en tout cas, on n'a pas abordé l'affaire par son côté voyeuriste, même si il s'est passé des choses assez ignobles dans les différentes propriétés de ce milliardaire. C'est pas ça qui nous intéressait, même si c'était le point de départ. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est de savoir de ce que cette affaire du siècle nous dit du monde d'aujourd'hui. Or, cette affaire nous dit beaucoup de choses. Elle nous dit la duplicité d'une gauche américaine qui, tout en prêchant la morale d'un côté, avait des mœurs privées tout à fait discutables. Elle nous dit des choses sur les interconnexions d'une espèce de mouvance progressiste à l'échelle de la planète qui se reçoit, qui se côtoie, qui se fait la courte échelle et qui, alors que Epstein avait été déjà condamné en 2008 pour esclavage sexuel d'une mineure de 14 ans, qui continue à fréquenter cet homme plus fréquentable et plus recommandable. Et c'est donc cette malhonnêteté intellectuelle qu'on a voulu pointer cette semaine dans le journal. Et on a évidemment aussi zoomé sur deux aspects, c'est-à-dire les ramifications françaises. On a vu que Jack Lang était notamment dans la tourmente. Et la manière dont là-bas, aux États-Unis, c'est perçu comme justement la preuve de la connivence des puissants. Je pense à des gens comme Bill Gates, je pense à des gens comme Bill Clinton qui sont mouillés dans cette affaire et qui ne sont pas les derniers pourtant à se draper de leurs bons sentiments et de leur politiquement correct.
Alors, effectivement, donc c'est une enquête tout à fait intéressante où justement vous n'êtes pas en train d'être dans la révélation de ceci ou de cela, même si évidemment au hasard des pages on apprend tout un tas de choses. C'est surtout la manière dont cette onde de choc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une bombe à fragmentation. Donc on est peu à peu entraîné et on voit à quel point cette affaire est d'une part une affaire française et d'autre part une affaire qui est loin d'être finie. Et il y a d'autres articles qui sont tout à fait intéressants, comme par exemple celui que vous consacrez à
Lavalette.
Alors Lavalette, voilà. Mais aussi,
qui est candidat du Rassemblement
national.
Voilà,
j'ai beaucoup aimé La Fourche et la Matraque, où vous revenez sur la manière, non pas inexplicable, parce qu'on est avec Macron, mais la manière désastreuse dont les forces de l'ordre se sont comportées avec les paysans.
Effectivement, c'est une excellente enquête de Nicolas Boutin, le rédacteur en chef du service Région de Valeurs Actuelles, donc qui est très connecté au terrain et qui explique dans cet article le deux poids deux mesures. On avait vu déjà le déploiement de véhicules blindés Centaure au moment des premières contaminations de bétail qu'il y avait eu il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, un ou deux mois, alors qu'on n'est pas capable de sécuriser parfois des points de deal en banlieue parisienne ou de métropole. Et effectivement, on raconte comment les agriculteurs ont été victimes d'une certaine manière de bavures policières ou d'acharnement policier. Malheureusement, je crois que c'est pas les policiers eux-mêmes qu'il faut blâmer. C'est évidemment leurs donneurs d'ordre. C'est des gens qui se retrouvent dans des situations intenables. Il y a notamment une photo, moi, que je trouve assez saisissante. Je ne sais pas si elle vous a marqué aussi, mais elle a été prise par un agriculteur. On l'a publiée dans ce dossier. On voit qu'il est dans sa cabine de tracteur et puis il est braqué par un fonctionnaire de police qui a l'air lui-même un peu paniqué en fait par ce qu'il fait. Et d'ailleurs, on explique dans le papier que justement, c'est un policier qui est un supérieur hiérarchique et qui n'a pas l'habitude de ce type d'intervention. Mais ça montre l'absurdité du maintien de l'ordre en France.
Eh bien, merci beaucoup, Tugdual Denis. Et je remontre la couverture. Voilà, valeurs actuelles de cette semaine. La grenade Epstein, manipulation, déviance et cynisme. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Richard. Bon week-end et à tous vos éditeurs.
Zone libre.
Et pour la zone libre, j'ai le plaisir de recevoir Louis Rigaudière, l'homme des internets, celui qui va jusqu'au fond du dark web, traquer les sites les plus improbables, les informations les plus audacieuses.
J'irai pas jusqu'au dark web, parce que c'est pas si simple d'y aller hein, quand même.
Mais en tout cas, bonjour à tous. Nous cacherons tous nos secrets.
Mais voilà. Écoutez, bonjour à tous, bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs. Moi, je vous parle de Jack Lang. Encore et toujours Jack Lang, ça fait longtemps, parce qu'Alexandre, évidemment, on a parlé, enfin voilà, tous nos invités en ont parlé cette semaine.
Mais on est tellement content de parler de Jack Lang de cette manière-là.
Mais oui, parce qu'en fait, il y a un article qui est passé un petit peu inaperçu, qui a été publié dans Le Monde, et dont je vous ressors les passages les plus croustillants, et c'est notamment le journaliste de Valeurs Actuelles, Amaury Brelet, qui a ressorti sur les réseaux sociaux des passages assez intéressants. Alors écoutez bien ce portrait qui se dessine de l'ancien ministre. Jack Lang n'a plus de voiture avec chauffeur à l'Institut du Monde Arabe. Jeffrey lui prête la sienne. Jack Lang souhaite voyager à Marrakech. Jeffrey lui prête son jet privé. L'ancien ministre redoute de voir son nom effacé de la scène publique. Jeffrey dépense 30 000 dollars pour un film en hommage à sa fille. 50 000 dollars pour un film sur l'épopée des années Lang. Et envisage même de verser 100 000 dollars pour un livre sur l'éducation. Gallimard a d'ailleurs annoncé suspendre la parution du prochain livre de Jack Lang, qui devait sortir en mai prochain, le titre « Ma vie avec François Mitterrand ». Ça aurait été intéressant pour vous, Richard. Mais revenons en arrière. Qui se souvient que Jack Lang a été élu député du Pas-de-Calais pendant 10 ans, de 2002 à 2012 ? Un jour de campagne en 2002, il part sans payer la note de son équipe. Une employée au conseil départemental se retrouve avec l'addition sur les bras. Les élus historiques doivent recadrer la star Jack. Un autre jour, aux militants socialistes qui l'incitent à assurer une permanence, Jack Lang leur rétorque « Je ne suis pas assistante sociale ». Et le portrait continue de s'assombrir. Un secrétaire général de l'Élysée de l'époque raconte un Lang qui maniait le harcèlement comme personne pour obtenir une nomination. Une décision, une décoration. Il ne rate rien qui puisse le mettre en valeur, un honneur, une médaille. Il est garant de son héritage et de sa reconnaissance à chaque seconde de sa vie. Et cette phrase terrible de Rima Abdul-Malak, tout le monde savait qu'il ne payait rien. Il considère qu'il doit être invité partout, dans des conditions de luxe. Voilà, donc la polémique qui enfle autour de lui n'a peut-être pas mis un coup de frein à son train de vie luxueux. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que je doute que l'ancien ministre de la Culture connaisse, lui aussi, le prix du pass Navigo annuel. Voilà, Richard, c'est quand même... ça donne un petit peu le cadre du personnage et sur la manière de vivre de beaucoup de ces personnes, notamment dans les hautes sphères du pouvoir et intellectuel. Et évidemment, c'est qu'un échantillon.
Ce sont des pinces. C'est ça qui est fabuleux. En fait, la bonne recette pour devenir riche, c'est de ne jamais rien payer. Je trouve ça, ça fabuleux.
Oui, mais c'est plus on est riche et moins on paye. C'est malheureusement... une réalité.
Quand il était député dans le Pas-de-Calais, aussi, non seulement il se tirait sans payer les additions, mais il refusait de tenir les permanences de député en expliquant qu'il n'était pas assistante sociale.
Oui, exactement. C'est ce que dit l'article. Oui. Il y a d'autres personnes comme lui. Hein, malheureusement, c'est très répandu cette façon de faire.
À l'Institut du Monde Arabe, il y a dans les cahiers des charges du restaurant qui tient la luxueuse cafétéria.
partenariat de l'Institut du monde arabe, il y a des clauses pour faire en sorte que Jack Lang soit reçu gratuitement par, par l'opérateur.
Ah bah ça, je savais pas.
Il y a des clauses sur le fait qu'on doit servir régulièrement du thé avec des gâteaux à Jack Lang. Enfin, le gars fait marcher la machine à son profit.
Et on va voir si ses bénéfices, si ses avantages seront à vie. S'il pourra continuer à obtenir tout ça après sa démission. À suivre.
Magda, vous nous aviez émus la dernière fois avec le sort de 4000 lapins lâchés dans la Mayenne.
Exactement.
Aucune nouvelle de ces lapins.
Justement, comme on est des journalistes très investis, je suis allée enquêter très personnellement. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, un camion s'était renversé sur une départementale de Maine-et-Loire et avait fait lâcher 4000 petits lapins qui allaient tout droit vers l'abattoir. Et il s'avère qu'ils ont réussi à rattraper 3850 environ petits lapins, ce qui fait que 100 ou 150 petits lapins sont encore en liberté, ont peut-être grand remplacé les petits castors du lac du Maine. Mais il s'avère que les autres ont fini dans vos assiettes en civet. Donc c'est un peu une terrible fin.
La semaine dernière, on était là avec des images éblouissantes de pampans en train de gambader dans la Mayenne et des garennes sauvages, enfin une espèce de repeuplement anarchique avec une communauté autogérée de lapins. Et en fait, non, pas du tout.
Après 150 lapins au mois de mai, je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer quand même qu'il y en a plusieurs milliers. Mais ouais, malheureusement, la fin, il y a un petit peu la chute et...
Cela dit, vous avez enquêté, merci, bravo. Comment ces 3850 lapins ont-ils été rattrapés? On a mobilisé des brigades de CRS armées de filets.
Mais exactement, tout le monde s'est mobilisé.
Vous voulez dire que les Mayennais carnivores ont empêché l'expansion de cette communauté rurale?
Vous imaginez bien que la nourriture passait avant et tout le monde est allé avec sa petite lance chercher les petits lapins blancs.
À la lance.
Dans les champs du Maine.
Les dos de feuilles ont des pratiques. Moi, les seuls trucs que j'ai jamais pêché à la lance, d'ailleurs, c'était pas une lance, c'était des tridents, c'était des truites la nuit dans le gaffe du pot, ce qui était strictement interdit d'ailleurs.
Vous auriez pu participer au râteau pour les petits lapins blancs.
Oui, voilà. Écoutez, merci beaucoup.
Terminé.
Ok. Mes souvenirs d'enfance, ce sera pour une autre fois. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci Louis, merci Magda. Vous ne pouvez plus nous suivre sur YouTube et sur X, mais vous pouvez toujours nous entendre. Et vous êtes tellement contents de nous entendre que d'ailleurs, vous allez nous donner de l'argent, ainsi que Arnaud va vous y inciter.
Exactement. Et pour nous faire des dons, vous pouvez le faire de deux façons. Tout d'abord, des dons en ligne sur soutenir.rc.fr ou par la poste, vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Eh bien, merci Arnaud, et nous allons rediffuser notre petit sujet du matin puisqu'il était passionnant. Émilie Ria part en guerre contre Louis Sarkozy à Menton et son cheval de bataille, l'insécurité.
Ligne droite. Debout les Français.
Et à propos de démocratie qui fonctionne ou pas, nous avons le plaisir de recevoir Émilie Ria, qui est candidate Reconquête à Menton. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors vous êtes infirmière puéricultrice, vous êtes mère de deux enfants, vous êtes mentonnaise depuis toujours, et vous voyez se profiler à l'horizon le plus grave des dangers que Menton a jamais connu, Louis Sarkozy pourrait devenir maire.
Tout à fait, après nous avons... En effet, le fils de l'ancien président qui est venu à Menton pour briguer la place de maire. Nous avons aussi d'autres candidats, dont la députée au sein de notre circonscription. Deux candidats qui finalement ne représentent pas la droite que je représente. Et par ma candidature, je veux pouvoir proposer aux Mentonnais une vision de droite.
Alors... il y a plusieurs listes qui sont contre vous. Alors, par exemple, le candidat Laurent Lancard-Castiel, d'Hiver Gauche, qui explique qu'il a un projet de coulée verte, ou Sandra Paire, qui a présenté, qui est chef de file de Nouvel Élan pour Menton, qui a présenté son programme, où elle dit qu'il faut beaucoup de rigueur et beaucoup de cœur. Est-ce que vous avez l'impression que le cœur et la coulée verte sont vraiment les choses dont Menton a besoin?
Je pense que Menton a besoin maintenant de sécurité, d'avoir une vision ambitieuse, rayonnante, pour qu'on retrouve finalement une ville où il fait bon de vivre, grandir, travailler et vieillir sereinement. C'est vrai que ces dernières années, au niveau de la mairie, on a pu constater que tout est un peu à l'abandon, on n'a plus de culture, les trottoirs ne sont pas entretenus, les jardins ne sont pas entretenus, On n'a plus de choses pour la jeunesse. Les gens ont peur de sortir à certains endroits, à certains moments de la journée ou de la nuit. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est viable pour les Mentonnais.
Alors, donc, l'encart Castiel, il est sympa avec sa coulée verte, mais en fait, il y a un vrai problème de sécurité à Menton.
Tout à fait. C'est sûr qu'on est dans une ville qui est préservée. On est entre Monaco, on est entre l'Italie, on a la mer, on a la montagne qui nous contraint un petit peu. Mais il faut savoir aussi que entre 2023 et 2024, c'est une augmentation de 5% des crimes et des délits. C'est une augmentation de 71% de coups et blessures. Ça fait quand même une agression tous les 3 jours. Depuis 2020, c'est 138% d'augmentation de violences sexuelles. On voit qu'il y a de plus en plus d'SDF dans les rues. On le constate, les chiffres du CSS le montrent. 78% de passages en plus entre 2023 et 2024. Ça fait 5600 passages au niveau de l'accueil de jour. Donc on voit bien que ce qu'on voit dans la rue est montré par les chiffres derrière.
En fait, Menton est cette ville frontalière avec l'Italie et donc vous êtes un des chemins de passage de toute l'immigration clandestine.
On est un des chemins de passage, en effet, de l'immigration. Les passages se font. La plupart des migrants ne s'arrêtent pas, font que traverser. La principale raison que l'on a là, c'est surtout les gens sans-abri qui restent dans Menton, aussi bien au niveau du centre-ville que dans les vallées. On a des problèmes d'alcoolisation dans les rues, de drogue. Quand on est au bord d'un café et qu'on se rencontre, qu'il y a finalement un SDF avec un dealer qui font leur passage de cam devant nous, c'est vrai qu'en plein jour, c'est quelque chose qui est assez surprenant pour une ville comme Menton.
Alors, cette dégradation de Menton, parce que, voilà, je le répète, vous êtes mentonnaise depuis toujours, est-ce qu'il y a un tournant, est-ce qu'il y a un moment donné où on a senti que les choses basculaient?
Les choses basculent depuis quelques années. C'est vrai que là, on remarque que ça s'accélère. Il y a une dizaine d'années, okay, la population n'était pas la même. Hein. On voit que maintenant, on a des femmes voilées dans les rues, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, qui est sûrement expliqué par le fait d'avoir des logements sociaux où on récupère de la population de Nice. Hein. Donc, on a un peu le déversoir de Nice par rapport à ça. C'est pour ça que moi, je m'oppose du coup à la loi SRU. Je préfère payer des pénalités plutôt que accueillir des gens qui viennent à Menton et qui après peuvent créer des troubles d'instabilité. On a aussi le seul accueil de jour entre Nice et Menton qui fait un appel d'air justement, pardon, pour tous ces vagabonds et tous ces sans-abri, finalement tous ces zonards qui sont là la journée, qui retournent des fois le soir sur Nice et qui vont errer ici toute la journée à Menton.
Alors, vous êtes mentonnaise. Est-ce que c'est ces problèmes d'insécurité qui ont motivé votre engagement dans la course au municipal?
Alors oui, moi, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, je suis maman de 2 enfants et je pense à leur avenir. Je pense au quotidien des mentonnais et pour moi, c'est le critère important de pouvoir vivre en sécurité dans notre ville. Donc c'est un des critères en effet qui m'a lancée dans cette candidature.
Alors, en face de vous, Louis Sarkozy, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, on va pas faire semblant de ne pas le voir. Et Louis Sarkozy, c'est un rouleau compresseur de la droite classique. Et quelle est l'avance qu'il a dans les sondages? Est-ce qu'à votre avis, Menton va devenir le socle d'une carrière aussi fulgurante que celle de son père, qui lui permettra d'aller à l'Élysée et à la Santé?
Vous savez, les Mentonnais ne sont pas dupes. Hein. Ils voient bien l'intérêt qu'il a à venir à Menton. Ils voient aussi les soutiens qu'il a, hein. Renaud Muselier, Estrosi. Finalement, toute cette droite centriste, molle, qui a beaucoup trahi les électeurs ces dernières années. Les retours sur le terrain ne sont pas forcément positifs pour lui. Hein. Beaucoup de Mentonnais se demandent finalement qu'est-ce qu'il vient faire ici et pourquoi vouloir briguer Menton alors que finalement, il n'est pas d'ici. Ah. Les Mentonnais sont conscients que c'est à viser vraiment politique et un tremplin pour lui.
Je suis en train de recevoir Émilie Ria, donc candidate reconquête à Menton. Tout à l'heure, à 7h25, je recevrai Laurence Beneux pour parler du scandale Epstein et évidemment du scandale des réseaux pédophiles. Émilie Ria, Louis Sarkozy donc, est un champion
enfin votre principal concurrent. La gauche réunit, je crois, en espérance de vote, réunit 14% d'intention de vote. Est-ce que la gauche est vraiment atomisée à Menton, ou est-ce qu'il y a un danger avec les candidats de gauche?
Menton est un territoire de droite, et pour le coup, ça, la même chose depuis des années. C'est un territoire de droite.
Voilà. Donc c'est un territoire de droite, c'est un territoire dans lequel Reconquête essaye de se tailler une place. Vous avez constitué une liste. Comment avez-vous réussi à constituer la liste Reconquête?
La Reconquête, c'est quand même 15% présidentiel, 13 et 14% aux élections européennes et législatives. Donc on a un bassin de personnes qui sont dans nos idées, dans notre lignée. Même des personnes qui ne sont pas forcément encartées lorsqu'ils m'interpellent dans la rue sont dans nos idées et me disent on est totalement d'accord avec ce que vous pensez. Donc les gens sont quand même conscients du changement de la France et sont dans les idées de Reconquête. Donc finalement, la liste s'est faite avec des Mentonnais qui sont de cœur ou de lignée et qui ont envie de préserver Menton.
Ah, et ces Mentonnais, voilà, la parité l'exige, donc des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des professions libérales et des fonctionnaires. Vous avez c'est tout Menton qui est représenté dans votre liste?
Tout à fait. La liste est vraiment, comme vous dites, un représentatif de la société, de la ville de Menton. On a des jeunes parents, on a des retraités, on a des actifs, on a des personnes qui travaillent dans le libéral, on a des salariés, on a des enseignants, on a des douaniers, on a des infirmiers. On a toute une catégorie de professionnels qui ont envie vraiment de s'investir pour protéger Menton et pour pouvoir donner une voix pour leurs idées et pour pouvoir enfin voter pour finalement ce qu'on a envie et pas contre un candidat par dépit.
Contre un candidat, évidemment, Sarkozy, lui, bénéficie du soutien de la gauche, de la droite. J'ai une telle opinion d'Estrosi que j'en arrive à le qualifier de gauchiste, de cette droite molle, comme vous disiez tout à l'heure, de cette droite des notables. Il a l'air de débarquer en pays conquis. Quels sont les principaux obstacles qui vont se dresser sur sa route?
Les principaux obstacles, c'est les autres candidats. Hein. On a deux autres candidats issus de l'ancienne mairie, issus du divers droite, qui sont là aussi pour lui barrer la route. Donc, on a aussi la députée RN qui est là. Et puis, il y a moi aussi qui est là pour lui barrer la route. Donc, il a beaucoup de contraintes. C'est courageux de sa part de vouloir travailler avec tout le monde. Il a eu le soutien, en effet, d'Horizon, Renaissance et des LR. Il est prêt à travailler avec tout le monde, ce qui n'a pas eu forcément que des bons retours de son côté après, derrière. Donc il est confronté quand même à d'autres candidats face à lui qui sont prêts aussi à arriver à la mairie, à être là pour les Mentonnais.
Quand vous serez maire de Menton, c'est l'espérance qu'on ferme, quelles sont les décisions que vous prenez immédiatement, quelles sont les trois urgences que vous avez envie de régler le plus vite dans les premiers mois de votre mandat?
Alors, je pense qu'une des premières raisons, ça serait, comme on a traité avant, la mise en place d'un arrêté de cession d'occupation de la voie publique abusive et prolongée pour justement régler ce souci d'errance de zonards dans la ville. On a un gros souci au niveau du logement aussi à Menton. C'est une zone où les logements sont rares, où il y a beaucoup de résidences secondaires, c'est la moitié du parc immobilier. Donc, il faut qu'on puisse réguler les Airbnb de façon stricte pour pouvoir permettre de maintenir le tourisme quand même, de pouvoir loger les Mentonnais aussi. Et on a aussi toute une politique familiale pour pouvoir permettre aux parents d'avoir un accès à des places en crèche avec des horaires étendus, avoir accès à du périscolaire finalement pour tous les enfants, parce qu'actuellement, c'est pas le cas, en s'appuyant sur les associations que l'on a autour, et de pouvoir finalement faciliter la vie des familles aussi.
Comment expliquez-vous sur la première proposition que vous faites, donc qui consiste en fait à rendre les rues à nouveau sûres, comment expliquez-vous que l'ancienne mairie, la mairie actuelle, n'ait pas déjà pris ce genre d'arrêté?
Très bonne question. Je pense qu'ils ne voient pas forcément le problème. En tous les cas, pour moi, c'est un problème au niveau déjà de l'exemple que l'on a pour nos enfants. Quand dans la rue, je me balade avec mes enfants et que je vois quelqu'un qui se masturbe devant le parc, devant la mairie, moi, ça me pose problème. quand je vois des gens alcoolisés, que ce soit dans les vallées ou dans que ce soit le Borrégo, le Careil ou le centre-ville, ça me pose problème. Et quand je me dis, bah, finalement, nous sommes une ville touristique, que la première image que les touristes ont, bah, c'est lorsqu'ils se baladent dans les lieux touristiques, voir des gens errer comme ça, zoner comme ça, pour moi, ce n'est pas aider notre économie là-dessus non plus.
Ah, et donc, la mairie actuelle, par laxisme, pour éviter d'être taxé, d'être d'extrême droite, considère que ce climat de saleté, d'insécurité, d'immoralité est quelque chose d'en fait supportable.
Je pense en effet que ce n'était pas une problématique qui l'ait touchée. Et là, je mets en lumière aussi ce sujet-là que beaucoup de mentonnés en ont assez. Hein. On se retrouve quand même avec des panneaux, il faut dire ce qui est, hein, des panneaux sous des fenêtres ou devant des portes avec des gens sur un panneau barré, interdit de déféquer, interdit d'uriner. On en arrive quand même là à Menton.
Ah oui, effectivement.
Donc c'est quand même que les gens sont à un stade d'épuisement à bout. Lorsqu'on me dit, moi j'ose plus sortir dans tel et tel endroit à telle heure parce que je me sens pas en sécurité, c'est quand même quelque chose qui pèse. Quand on me parle des nuisances qu'il peut y avoir autour aussi, voilà, il y a quand même des conséquences au quotidien pour les mentonnés. C'est pas acceptable. On peut pas se permettre de dire. On entend tout ce qui est problème de vie, tout ce qui est à tout moment une personne peut avoir des soucis. Pour moi, l'accueil du jour ne résout pas le problème. Il permet juste, voilà, d'avoir un accès pour ces personnes-là. Moi, j'ai vraiment envie de réorienter l'offre pour pouvoir proposer des solutions concrètes pour que ces personnes-là puissent déjà retrouver de la dignité, pour qu'ils puissent vraiment avoir un logement, qu'on puisse les accompagner au niveau de la santé s'ils ont besoin, parce que souvent, il y a des troubles psychiatriques ou des problèmes d'addiction qui sont associés. J'ai envie de pouvoir leur proposer aussi de la réinsertion derrière, finalement, d'avoir tout un schéma qui leur permette de remettre le pied à l'étrier et de pouvoir vraiment sortir de la rue et pas juste leur proposer un endroit de passage qui ne règle aucun des soucis.
Eh bien, merci beaucoup, Émilie Ria, et évidemment, bonne chance pour la conquête de la mairie de Menton.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, avec Richard de Sèze.
Eh bien, merci, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pendant toute cette matinale. Nous allons, une fois de plus, vous proposer de nous soutenir. On a l'impression de tendre la main en permanence, mais c'est parce que Radio Courtoisie est une radio intéressante et qu'elle a besoin de votre soutien, puisque c'est seul votre soutien qui lui assure son existence et son indépendance, et donc son intérêt.
Effectivement, si vous voulez voir poursuivre l'œuvre de Radio Courtoisie, il est important que vous nous souteniez financièrement en nous faisant des dons en ligne, par exemple sur soutenir.rc.fr. ou bien encore en adressant vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Eh bien, merci beaucoup. Et avec tout ce bel argent, nous allons faire de belles émissions comme celle qui commence juste après la matinale.
Alors, dans un instant, promenade flâneuse au domaine de poésie dirigée par Pascal Payen Penzeller qui nous parlera de secrets de poètes. À midi, le libre journal des éditeurs dirigé en direct par Jean-Paul Nadéo, Sinatra, Amour et Mafia, La colonne des cendres, Voir grand et habiter petit, et enfin une dernière partie consacrée à Théodore Dreiser. À 17h30, Restons Courtois, dirigé en direct ce soir par Marc Baudrier, à suivre également sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X. Au programme La dette, l'Ukraine, Macron le fugitif. L'école publique, chantier prioritaire. Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, le verrouillage macroniste était un peu voyant. Et puis enfin, le clin d'œil culture. 19h30, il était une fois dirigé en direct par Patrick Simon. Et 21h30, prolongation en direct également par Stanislas Rigaud. Et nous terminerons la soirée avec Patrick Banken et Jean Grégorien, consacrés cette semaine au dimanche de la quinquagésime.
Eh bien, merci beaucoup Arnaud, et je ne vous dis pas à demain, mais je vous dis à lundi, car demain, c'est samedi.
À lundi.